Salut Romain, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter aujourd'hui du pouvoir de décision des utilisateurs de la DeFi à travers les tokens de gouvernance des DAO, ces fameuses organisations autonomes décentralisées. Tu fais partie du protocole Paladin qui vient d'ailleurs de faire son airdrop. On va en discuter à la fin de l'épisode qui consiste justement, Paladin, à récupérer le pouvoir de vote des utilisateurs des jetons de gouvernance qui n'utilisent pas leur pouvoir de vote pour les mettre à disposition de personnes qui souhaitent justement obtenir une puissance de frappe plus importante lors de décisions émises par ces DAO. 95% des utilisateurs ne votent pas les décisions des gouvernances, justement. Et c'est là que tu interviens. On va discuter de tout ça. On va discuter de Paladin et de ces enjeux de gouvernance qui sont très importants aujourd'hui à l'ère où on bâtit la première couche de la finance décentralisée. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire quelques mots sur Paladin avant qu'on discute de tout ça, s'il te plaît?
Oui, pas de souci. Enchanté. Moi, du coup, c'est Romain Figreo. On a monté Paladin avec mon cofondateur Valentin. On a aussi notre propre Valentin chez Paladin, qui on l'a monté à partir d'un hackathon qui a eu lieu en janvier. Donc, ça fait presque un an que le projet est en cours de développement. Et on a sorti notre solution en septembre. Donc, on est live depuis un tout petit peu plus d'un mois. On a aujourd'hui le protocole, il a environ 11 millions de dollars de TVL. Et on vient d'annoncer la sortie de notre token. Donc, pour donner un petit peu plus de contexte sur ce qu'on est en train de construire, mon cofondateur, lui, il est ingénieur en sécurité informatique. Et moi, à la base, je suis juriste en droit bancaire. L'idée, c'est que quand on a commencé à découvrir la finance décentralisée, à ses débuts, quand on a rencontré les gens de Maker, de AV, on s'est rendu compte que de plus en plus, ces protocoles allaient prendre une importance de plus en plus basique au niveau financier et que la gouvernance allait devenir un élément central. En effet, en fait, la grande innovation qu'on est en train de voir aujourd'hui en crypto, c'est celle de la décentralisation. Ce n'est pas forcément les outils qu'on construit dessus, parce que cela existe déjà, ils existent déjà en finance traditionnelle. En fait, c'est en le construisant sur cette brique décentralisée qu'on peut les avoir de manière ouverte, on peut les avoir en open source, accessibles à tous. Et donc, ce qui est très important, c'est donc que tous ces outils restent décentralisés. Le problème, c'est que la technologie, et c'est pas suffisant qu'elle soit juste décentralisée, il faut aussi que le consensus social par-dessus soit décentralisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, si le consensus social par-dessus n'est pas décentralisé, eh bien à chaque fois qu'il y a une mise à jour, à chaque fois qu'il y a des paramètres à modifier, eh bien ce sont par exemple l'équipe de développement, comme nous pour Paladin par exemple, qui vont décider ce qui devrait être modifié. Ce qui est dangereux, c'est que du coup, il y a un point d'accès centralisé par rapport au niveau de l'équipe. Donc c'est pour ça qu'en fait la gouvernance décentralisée, ça va devenir un enjeu de plus en plus important. C'est parce qu'en fait ça va devenir la condition indispensable d'un projet décentralisé.
Et justement, on va en discuter tout au long de cet épisode avec l'importance, tu le disais, des tokens de gouvernance qui sont associés à ces DAO. On avait d'ailleurs fait, je le mettrai en description et en fiche tout de suite, un petit épisode avec Marc Zeller sur l'importance des DAO et qu'est-ce que sont ces organisations autonomes décentralisées pour les traduire en français. Et c'est amusant. Donc, pour reprendre un petit peu, en janvier, vous avez cette idée-là, vous la peaufinez, tu montes une équipe et assez récemment, il y a quelques mois, vous faites une levée de fonds et vous récoltez 2,2 millions d'euros, si je n'ai pas de bêtises.
Oui, voilà, en fait, on a levé 2,5 millions de dollars, donc tu as dû faire le calcul très vite. C'est ça, en fait, l'idée, c'est que on avait un produit qui nous paraissait intéressant. Après, nous, on a une vision vraiment à quelques années. Quand je dis quelques années, on est plutôt sur 3, 5, 10 ans sur ce qu'on aimerait construire aujourd'hui. Parce que globalement, ce qu'on a construit, la base, c'est-à-dire du prêt de droit de vote, aujourd'hui, on veut l'étendre pour arriver à faire un écosystème qui aura pour unique but de démocratiser l'activisme financier. Aujourd'hui, on aimerait que n'importe qui soit capable, grâce aux technologies que Paladin est en train de développer, de participer dans des gouvernances. Donc, c'est des gouvernances crypto aujourd'hui, peut-être des gouvernances d'entreprises cotées en bourse demain. Il y a un manque de participation du public, entre guillemets, retail, donc de vous et moi, à la participation de ces gouvernances. Ce n'est pas seulement aux directeurs des équipes et à des fonds d'investissement de participer dans ces entreprises. Tout le monde a une part du capital aujourd'hui, donc tout le monde devrait avoir le droit de parler.
Et justement, avant de poursuivre et de comprendre ces enjeux-là, quelle est la différence, histoire de rappeler un petit peu s'il y a des différences ou des similitudes, pardon, entre les actions d'entreprise et les tokens de gouvernance des DAO?
Alors, c'est un très bon sujet. Les tokens de gouvernance aujourd'hui, ils n'ont pas de définition juridique. Je suis désolé, je me base sur mon expérience de juriste. Une action, en fait, ça représente quoi? Une action, ça représente un bout du droit de propriété sur la société. Donc en fait, quand vous êtes actionnaire, vous avez un pourcentage de la société, souvent infime avec une action. Et ce droit de propriété, il vous donne accès à un droit de vote dans ce qu'on appelle les assemblées générales. Voilà, donc ça, c'est globalement ce que représente une action. Et en fait, c'est lors d'une assemblée générale qu'on va voter pour, ou non pour les dividendes. Donc en fait, les dividendes, c'est un corollaire du droit de vote qui est un corollaire du droit de propriété. Alors le problème dans un protocole décentralisé, c'est que la notion de propriété, elle n'existe pas. Parce qu'en fait, quand vous déployez un protocole, il est mis sur la blockchain et en fait, on ne peut pas le retirer. Donc il n'y a pas de notion de propriété, il n'appartient à personne. En revanche, il y a un droit de décision sur la modification des paramètres du smart contract. Et donc, le jeton de gouvernance, finalement, c'est quoi? C'est un bout du droit de décision de la modification, donc de la prise de décision d'un protocole, donc un ensemble de certains smart contracts. Qu'en fait, la différence avec une action, elle est très simple à base, il n'y a pas de notion de propriété. Vous ne possédez rien. Par contre, vous avez de l'influence. Et c'est pour ça que nous, on pense que c'est très sous-estimé aujourd'hui, le jeton de gouvernance.
C'est vrai que ces jetons de gouvernance, d'ailleurs, ce podcast, on l'enregistre 2 jours avant sa publication. Il sortira donc dimanche. Et donc, nous l'enregistrons vendredi. Et la semaine prochaine, tout début de semaine prochaine, il y a. D'ailleurs, vous avez fait votre airdrop, mais le airdrop là, qui accapare un petit peu l'attention en ce moment, c'est l'ENS, là, qui d'ailleurs pourrait être quelque chose d'assez énorme. Vous avez fait votre airdrop et le screenshot, et on va discuter de tout ça plus en détail tout à l'heure, il y a quelques jours également. Et en fait, ces jetons de gouvernance, aujourd'hui, beaucoup s'empressent. Une fois qu'ils ont un airdrop et que ça représente entre 2 000 et 40, 50 000 dollars pour les plus récents avec des DYDX en tête, pardon, de le revendre. Alors que si ça vaut aussi cher, c'est qu'il y a des gens qui sont capables de l'acheter sans parler des droits de vote. Et c'est pour ça qu'on parlera de Paladin après, parce qu'il y a un très fort enjeu pour le protocole ensuite, en fait.
Alors ça, c'est un sujet sur lequel je suis très vocal, je m'exprime beaucoup à ce sujet-là. Je pense qu'en fait, on a un gros problème et c'est compréhensible, hein. En fait, quand un projet donne des jetons à l'ensemble des personnes qu'ils ont choisies, ils espèrent que ces gens, c'est une méthode marketing pour attirer les gens pour qu'ils participent au projet. Le problème qu'on a, c'est que souvent, ça peut représenter des sommes conséquentes et souvent, ça peut changer la vie de certaines personnes d'avoir des sommes comme ça. Moi, je comprends tout à fait que ces personnes vendent. Sauf qu'en fait, qui achète en général, ce sont soit des spéculateurs, soit des fonds. Donc en fait, quand on reproche à un projet d'être trop possédé par des fonds, et c'est ce qui arrive sur la plupart des projets sur le long terme, en fait, c'est parce que ce sont les seuls à avoir des comportements professionnels d'achat sur le long terme du projet. On sous-estime trop, pour plein de raisons, l'influence et le pouvoir de gouvernance qu'on peut avoir en tant qu'individuel sur une DAO. Je pense que c'est dû à un argument très simple qui en fait vient de la finance traditionnelle. C'est juste que seul, on se sent extrêmement faible et impuissant par rapport à, par exemple, un fonds qui possède 1 ou 2% du protocole. Aujourd'hui, c'est vrai. Et c'est vrai aujourd'hui aussi en gouvernance de crypto. Et je pense que tout l'enjeu, et c'est nous, c'est tout l'enjeu qu'en tout cas on a choisi sur lequel on a choisi de travailler avec Paladin, c'est d'arriver à faire de la coordination d'actionnaires minoritaires. C'est-à-dire que toi, Valentin, moi, Romain, on soit capable de se coordonner avec l'ensemble de la communauté crypto, c'est qu'on soit capable d'arriver à mettre en avant des propositions et faire entendre notre voix, entre guillemets, face à des plus gros possesseurs de jetons. Donc en fait, le grand problème aujourd'hui, il est un, celui d'arriver à créer un intérêt pour que les gens le conservent, ce jeton-là, et deux, ensuite d'arriver à une culture et à des réseaux qui vont permettre aux gens de l'utiliser.
Est-ce qu'on peut justement donner quelques exemples d'actions qu'on peut effectuer avec un token de gouvernance et qui est communément proposé par les DAO des plus gros projets pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle? Est-ce que c'est changer juste la couleur du front-end ou est-ce que c'est plus profond que ça? Et si c'est plus profond, qu'est-ce que c'est?
Alors oui, ça c'est quand même beaucoup plus profond que ça. Je vais donner deux exemples. Il y en a un qui a purement trois exemples. Il y en a un qui va être purement financier. Aujourd'hui, par exemple sur la gouvernance de Curve, une partie du droit de vote de Curve permet notamment en fait d'équilibrer les jauges. Donc en fait, ça veut dire qu'en tant que possesseur de droit de vote, on a le pouvoir de contrôler la distribution du jeton Curve. Et ça va être la même chose pour le sushi. Donc en fait, ça veut dire que si on est une DAO et qu'on a un stablecoin ou une autre paire qu'on souhaite incentiviser, on n'a pas besoin de donner ses propres tokens. Si on a suffisamment de pouvoir en gouvernance chez Curve, eh bien ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rediriger la distribution de Curve vers ses pairs sur Curve. Et donc, on aura plus de liquidity mining et donc plus de personnes qui vont vouloir investir dans cette paire Curve. Ça, c'est la première chose, purement financière. La deuxième, elle est plus intéressante. Aujourd'hui, il y a un vrai intérêt, et une partie les plus développées de la crypto, c'est le levier. Notamment ce qu'on appelle les prêts surcollatéralisés, donc sur AV, sur Compound, avec Rari Capital. Sur AV, qui est une des plateformes les plus qualitatives du marché sans discussion. Ce qu'on est en train d'observer, c'est qu'il y a une vraie bataille pour rentrer en tant que collatéral dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi, mon jeton, il a une valeur, mais parfois, je n'ai pas forcément envie de le vendre, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais m'exposer à d'autres cryptos ou faire quelque chose d'autre avec cet argent-là, sans pour autant le vendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets mon ETH ou je mets, par exemple, mes jetons unis sur AV et j'emprunte des stablecoins par-dessus et je les réinvestis dans quelque chose d'autre. Donc, l'intérêt, c'est par exemple, on crée aujourd'hui, pendant ce podcast, le Valentin Coin et en fait, on fait une action en gouvernance pour que le Valentin Coin rentre en tant que collatéral au sein de AV et tu pourras emprunter des stablecoins par-dessus. L'intérêt, il est pour les gros holders, pour les investisseurs long terme, pour l'équipe, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir faire d'autres choses avec leurs fonds sans pour autant vendre leur part. Donc, il y a un vrai intérêt en fait qui est extrêmement puissant en termes de relais à être capable de rentrer en tant que collatéral ou de se faire whitelister dans d'autres protocoles pour faire des choses. Par exemple, pour rentrer dans les jauge curve, à un moment, il fallait se faire whitelister. Et après, il y a une troisième chose qui est en train de se développer, c'est les services et les dons, enfin les grants, ce qu'on appelle les grants. Notamment dans le DAO, je vais reprendre l'exemple d'AV, où en fait, il y a des sommes qui sont énormes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces trésoreries, elles contiennent des dizaines de millions jusqu'à des milliards en trésorerie. Donc, on parle de très grosses trésoreries qui ont des moyens très conséquents. Sur AV, il y a eu un vote qui était extrêmement intéressant par une société qui s'appelle Gauntlet, qui fait de la gestion de risque automatisée, donc algorithmique, et ils ont fait voter leur service, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés auprès de la gouvernance, ils disent voilà, on aimerait gérer la gestion de risque de la DA, de AV de manière trimestrielle. Et on va demander 2 millions de dollars par trimestre pour le faire. Donc, je ne prends absolument pas parti. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une société qui a réussi à se faire voter 2 millions de dollars de chiffre d'affaires par trimestre via la gouvernance. Donc, ça fait 8 millions de dollars par an quand même. C'est des sommes qui sont très conséquentes. Et c'est arrivé parce que des gens ont voté pour eux. Donc, voilà. Aujourd'hui, les enjeux de la gouvernance, ils sont très vastes. Je pense ils sont voués à énormément évoluer parce qu'en fait, une des forces de la crypto et notamment de la finance décentralisée, c'est la composabilité et créer de la flexibilité sur certains outils. Et je pense que le droit de vote ne se résume pas purement à contrôler un protocole, mais par exemple à contrôler ses actifs. Donc, on pourrait aller voir un protocole qui a beaucoup de trésorerie et leur faire voter qu'ils mettent toute leur trésorerie dans Paladin parce que ça serait lucratif pour eux. Moi, si je fais ça, par exemple, avec Uniswap, tout d'un coup, ils mettent 8 millions de dollars unis dans un jeton uni dans mon protocole, bah, j'ai 8 milliards de trésorerie, de TVL, pardon. Mais voilà, c'est la gouvernance est extrêmement puissante. C'est d'autant plus puissant qu'en fait, il y a très peu d'organes régulateurs aujourd'hui, entre guillemets, de veto. Donc, en fait, sur AV, sur Yearn, il me semble sur Compound aussi, vous avez des espèces de... Sur AV, ils appellent ça le gardien. Sur Yearn, ils appellent ça le white shad. En fait, c'est des entités qui peuvent créer un veto et qui peuvent annuler via un multisig une proposition de gouvernance qui paraît malicieuse. Mais il y a des protocoles sur lesquels ça n'existe pas. Donc, en fait, n'importe quelle proposition qui passe, quelle que soit la manière, eh bien, en fait, elle est automatiquement activée par du code. Donc, en fait, le grand problème de la... Enfin, une des grandes questions de gouvernance aujourd'hui, c'est qu'on a intérêt à ce qu'elle soit très bien structurée parce que ça peut très vite... sortir du contrôle de l'équipe, des investisseurs ou même des gens bien intentionnés à la base.
Et ce qui est amusant, pour bien comprendre ça, on a déjà eu l'occasion, comme je disais, d'en discuter avec Marc, que ça soit justement Marc Zeller, que ça soit Stani, le fondateur d'AAV, si la gouvernance décide que ça passe et qu'eux ne veulent pas que ça passe, ça passe.
Ah oui, bah c'est ça qui est fascinant. Et nous, c'est exactement pour ça qu'on a choisi de sortir maintenant le jeton Paladin. C'est parce qu'en fait, on ne souhaite plus être en charge du protocole en termes de la décision stratégique. C'est-à-dire, on va soumettre très prochainement un white paper à la gouvernance en montrant notre vision. On l'a déjà écrit dans plusieurs articles. On veut s'accorder avec eux sur la direction qu'on souhaite prendre. Et nous, ensuite, on va juste soumettre des mises à jour peu à peu au protocole et ils choisiront de les accepter ou non. C'est d'ailleurs ce que AV fait. AV vient de présenter la V3. Je vous recommande de la regarder. C'est une vraie belle mise à jour. Mais elle va être soumise à la gouvernance. Si la gouvernance n'est pas d'accord parce qu'il y a des paramètres qui ne leur plaisent pas, ils peuvent la rejeter. Et ça, je pense que c'est très important. Ça a plein d'implications. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a créé des choses qui sont plus grandes que nous. Entre guillemets, quand on crée un protocole, qu'on arrive à le décentraliser et qu'il commence par tourner sans nous, eh bien, on a créé quelque chose qui est plus puissant qu'une société parce que le réseau est beaucoup plus important. Mais en plus d'être plus puissant, en fait, c'est quelque chose qui sera capable de survivre à notre départ. Et je pense que c'est très intéressant comme concept. C'est-à-dire que peut-être si dans 70 ans, moi, je ne suis plus en vie et que Paladin continue à tourner, bah, je pense que ce sera la plus grosse réussite du projet, à un certain degré.
Et c'est aussi important pour cette raison-là, c'est-à-dire d'être, de plus, on ne peut plus l'arrêter une fois que ça devient une DAO. Et aussi parce que la régulation pourrait se mettre en travers de la route de ces protocoles et que si ça devient une DAO et donc que l'organisation est décentralisée, c'est comment c'est caractérisé ce type d'organisation aujourd'hui, toi qui as fait un peu de droit?
Alors, je vais être très honnête avec vous, il y a quelque chose sur lequel il faut faire très attention. Il y a très peu de choses qui ont été qualifiées juridiquement aujourd'hui en crypto. C'est beaucoup d'interprétations. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de texte, tant qu'il n'y a pas de jurisprudence qui ont été sorties, ce n'est pas forcément pertinent. Moi aussi, je vais faire très attention à ce que je dis lors de ce podcast, mais globalement, parce qu'il y a des choses qui pourraient être prises et qui pourraient être mal comprises. On n'est pas là pour faire du conseil juridique, on n'est pas là pour faire du conseil juridique, nous on est là pour construire un projet. Aujourd'hui, il y a plein de sujets très intéressants. Le premier étant qu'en fait, la réglementation mise en place, elle est souvent ancienne et elle est faite pour des sociétés centralisées, avec des intermédiaires et avec des gens qu'on peut attraper, punir quand quelque chose de mauvais se passe. En crypto, c'est un petit peu différent parce que l'équipe n'est plus forcément, comme on l'a dit, responsable de ce qui se passe sur son protocole. Et donc, ça veut dire que c'est compliqué de les tenir pour responsables de, par exemple, entretenir, faire tourner un service financier. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas le cas. Il y a beaucoup de réglementations qui poussent dans cette direction-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, une DAO, on aime dire que c'est une entité décentralisée, etc. Le problème, c'est que ça reste une entité juridique qu'il va falloir qualifier un jour ou un autre. Et donc, la grande question, c'est où est-ce qu'on mettra, où est-ce qu'on incorporera, où est-ce qu'on créera l'entité juridique de notre DAO? Est-ce qu'on va créer des nouvelles entités juridiques qui lui correspondront? Mais il y a des DAO qui aujourd'hui correspondent à des associations, à des fondations, à des sociétés, et c'est juste qu'elles n'ont pas la qualification juridique. Donc, c'est quelque chose qui est fascinant. Et de toute évidence, les DAO ont vocation à exploser en termes d'utilisation. Le problème, c'est qu'on est convaincu qu'on a inventé des DAO, alors qu'en fait, si on regarde les systèmes qui existent auparavant et certaines organisations, ce sont des DAO, sauf qu'elles n'ont pas la structure sur la blockchain. En fait, à mon sens, la DAO telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est une infrastructure informatique sur laquelle on crée des organisations. Ce n'est pas une organisation en elle-même. Enfin, toi et moi, Valentin, on pourrait commencer à parler, monter un projet tous les deux juste lors de ce podcast. Ce n'est pas pour autant dire qu'on a créé une DAO en termes d'infrastructure. Mais pour autant, on est en train de se coordonner de manière décentralisée. Et on pourrait inviter mon équipe, l'équipe de Cryptos, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, et pour nous rejoindre. On n'a pas besoin de l'infrastructure blockchain.
Oui, effectivement, c'est important de préciser. Et sur justement votre solution Paladin dans tout ça, elle se positionne parce que au-delà des airdrops et des sommes conséquentes que ça peut être, au-delà du fait qu'on puisse utiliser des tokens de d'autres protocoles pour les mettre dans des protocoles décentralisés, on peut mettre UNI de Uniswap dans certains protocoles pour avoir un collatéral et ce genre de choses. Donc ils ont une valeur fiduciaire, les gens sont prêts à l'acheter à un certain prix. Et en partie parce qu'il y a ce pouvoir de vote. Et aujourd'hui, il y a 6 milliards de tokens de gouvernance qui sont non utilisés dans la finance décentralisée, si je dis pas de bêtises. Et c'est une somme conséquente pour le pouvoir que c'est, et justement qu'on a commencé à esquisser jusque-là.
Alors, je ne connaissais pas cette statistique, elle est très intéressante. Nous, on part du principe qu'on a regardé sur les grosses gouvernances, en fait, la plupart en général, il y a 95% d'abstentionnisme en gouvernance vis-à-vis de le nombre de jetons en circulation sur les jetons de gouvernance. Donc, c'est sur les plus grandes gouvernances, on est en général à 5% de participation. Donc, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'en général, les équipes, elles ont entre 10 et 20%, et de même pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'en réalité, on pouvait juridiquement faire un trait et se dire, ah mais en fait finalement, ce sont les équipes et les fonds d'investissement qui contrôlent le protocole, juste parce qu'il n'y a pas assez de participation. Ça, c'est le premier problème. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on pourrait avoir un problème de vraie décentralisation, au sens où on pourrait nous accuser d'être en train d'être dans un écosystème qui n'est finalement qu'une charade. Et je ne prends pas parti, je dis juste que ce n'est pas l'objectif de ce qu'on est en train de construire, et que vu tous les efforts technologiques qui sont déployés aujourd'hui, ça serait bête qu'on ait des problèmes à cause de ça. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est en fait, aujourd'hui, les seules personnes qui décident, on est dans un système plutocratique où en fait, il y a une petite sphère de gens qui décident. Donc, si on regarde les quatre plus grosses gouvernances, AV, Uniswap, Compound, Curve, il y a environ 3 000 personnes en total qui ont voté. Si on regarde depuis, ça a peut-être monté, c'est des statistiques qui datent de cet été. 3 000 personnes qui ont voté, et si on regarde qui votent plus de 3 fois, donc régulièrement, à noter que la plupart de ces gouvernances, elles ont eu 60 à 70 votes. Hein. Curve et Compound, c'est le cas. Eh bien, en fait, il y a 700 personnes. Donc, aujourd'hui, 700 personnes sont en train de prendre des décisions pour l'écosystème. Et donc, c'est extrêmement important, un, qu'on en soit conscient, et deux, qu'on soit capable de créer des solutions pour permettre à n'importe qui ne fait pas partie de ces 700 personnes d'avoir un accès plus rapide pour rentrer dans ce jeu-là, pour réduire les frictions de gouvernance. Parce qu'en fait, l'enjeu, il est très simple aujourd'hui, c'est que si on n'est pas capable de vraiment créer des structures décentralisées avec des taux de participation corrects, c'est-à-dire soit dignes des entreprises cotées en bourse, donc de 30 à 60%, soit dignes d'une démocratie, donc en général entre 50 et 70%, eh bien, les projets décentralisés, elles n'ont aucun avenir. Pourquoi? Parce que le jour où une équipe part, le jour où un des gros investisseurs qui participe énormément, bah, tout simplement liquide sa position, qui reprend le relais? Qui participe dans la gouvernance? Tant qu'on n'a pas une communauté qui est vraiment active et qui a suffisamment de contrôle dans le protocole pour être capable de participer activement, mais en fait, il va y avoir un problème de continuité dans la vie de ces protocoles-là. Et donc, nous, on a basé Paladin sur ça. En fait, on essaie de créer des technologies qui veulent augmenter la participation dans les protocoles. Donc, on a commencé par quelque chose de plus facile, volontairement provocateur, qui est celui du prêt à droit de vote, parce que 95% des gens ne participent pas et pour la plupart cherchent du rendement. Ce qui est tout à fait compréhensible dans l'environnement actuel en crypto, où tous les prix sont en train de monter et il y a des pourcentages de rendement qui sont très importants. Moi, je ne suis pas convaincu que ça va tenir sur le long terme, mais l'idée, c'est qu'on a créé une plateforme où les gens qui ne veulent pas voter, qui ne sont pas intéressés par voter, qui n'ont pas le temps et qui cherchent du rendement, peuvent mettre leurs jetons dans Paladin, ils auront du rendement en échange. Et d'où vient ce rendement? Ce rendement, en fait, il vient d'une espèce de brique de Lego de finances décentralisées nouveau, qui est le prêt de droit de vote. Donc, en fait, on prête littéralement le droit de vote à des gens qui sont en recherche de droit de vote aujourd'hui. Court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là où avant, il y avait trois sources de rendement essentielles en crypto, c'est-à-dire les frais de transaction, comme par exemple si vous êtes LP sur Uniswap, les frais de prêt, donc les intérêts, comme par exemple sur AV ou sur Compound, et ensuite le liquidity mining, donc toucher des jetons de gouvernance du protocole natif. Et en fait, on en a créé un quatrième qui est un peu un hybride, qui est en fait des taux d'intérêt, mais sur le droit de vote et pas sur l'actif en lui-même. Nous ne prêtons pas l'actif dans Paladin. Ce qu'on prête, c'est purement le droit de vote. Donc en fait, quand vous mettez vos jetons dans notre protocole, ils restent dans le protocole et on redirige le droit de vote à la personne qui a demandé l'emprunt. Donc en fait, c'est une solution qui est beaucoup moins risquée, beaucoup moins exposée aux variations de prix, aux problèmes de liquidité et aux problèmes de non-remboursement, donc de solvabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut se positionner un peu comme une brique de Lego, vraiment tout en haut de l'écosystème ou au milieu, en fonction d'où les gens veulent être. Par exemple, je vais donner, sur AV, vous pouvez staker votre jeton AV, mais vous pouvez par exemple aussi staker votre jeton stake AV. Pourquoi? Parce qu'en fait, le stake AV, vous allez aussi avoir le droit de vote. Et donc, nous, on peut aussi l'intégrer dans Paladin, puisqu'on vend du droit de vote. Donc, vous pouvez bénéficier des rendements de la pool de protection de stake AV, plus des rendements de Paladin. Et en fait, vous pouvez les stacker. Et bientôt, vous pourrez peut-être le faire avec, par exemple, du stake ABPT. Donc, en fait, vous fournissez de la liquidité entre AV et IF sur Balancer. Vous les loquez dans le safety module de AV. Vous touchez les rendements et par-dessus, vous les mettez dans Paladin. Donc en fait, notre idée, c'est qu'on peut se positionner autour de tout ça. Et ça, on va pouvoir le faire avec beaucoup de tokens. Et ce qui est intéressant, c'est que ça débloque une nouvelle facette un peu du protocole à laquelle on n'avait pas forcément pensé. C'est celui en fait du gestionnaire de fonds, où en fait, quelqu'un peut juste poser ses actifs chez nous et juste les laisser auto-compound pendant longtemps. Donc c'est une solution passive de fonds pour les personnes qui possèdent des jetons de gouvernance et ne sont pas intéressées de participer. Je tiens à être très clair. Si vous déléguez et si vous participez aux gens de gouvernance, vous n'avez aucun intérêt à rentrer dans Paladin. On va créer des solutions qui seront tout aussi intéressantes financièrement et idéologiquement pour vous par-dessus. Parce qu'en fait, notre idée de fond, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de concentrer toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par la gouvernance. Et notre objectif, ça va être, via des flywheels, d'être capable de les convertir en des gens qui veulent participer en gouvernance. C'est un projet très ambitieux, on en est conscient. C'est un projet long terme, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Mais c'est la vision qu'on a aujourd'hui du projet.
Et c'est effectivement l'éducation qui sera très importante à terme sur ce genre de thématique. Et en fait, ce que tu as expliqué là, il y a tout à l'heure, et la discussion qu'on a depuis le début, sur l'importance du droit de gouvernance sur les protocoles de la finance décentralisée que nous sommes en train de construire aujourd'hui, parce qu'on est au tout début, et c'est justement que là que se passent les choses les plus importantes. Et justement, sur Paladin, vous avez dans cette envie de démocratiser et de faire comprendre, utiliser un peu la gamification pour aider à la compréhension de ce système.
Alors, plus que, un peu envie, en fait, c'est on a basé entièrement l'idée du projet dessus. Notre idée, c'est de créer ce qu'on appelle le jeu de la gouvernance. Donc, en fait, c'est rendre la participation dans ces systèmes-là aussi amusante, entre guillemets, que de la spéculation telle qu'on l'a aujourd'hui en regardant des cours monter et baisser. En fait, on a vu sur les 2 dernières années qu'il y a un véritable engouement sur la participation des gens à purement spéculer. Et je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, si on arrive à rallier ça avec les idéologies, avec les idées des gens, on est capable de faire quelque chose de très similaire purement pour la gouvernance. Et le jour où on arrive à faire ça, ça sera plus que juste une petite innovation ou quelque chose de marrant. En fait, ça sera un nouveau pas du capitalisme où on aura un capitalisme qui sera beaucoup plus ouvert et où les gens pourront beaucoup plus s'exprimer. Et donc, où il y aura, je dirais pas une égalité, c'est pas ce qu'on veut, c'est le concept de gouvernance liquide, c'est celui qu'on a voulu activer avec Paladin Lending, notre solution de prêt de droit de vote, c'est celle de permettre en fait à n'importe qui a besoin d'avoir du droit de vote et qui pense qu'il peut participer et contribuer, d'avoir au moins l'occasion de s'exprimer.
Et est-ce que l'utilisateur qui délègue ses droits de vote a la possibilité de voir à quoi sert son droit de vote pour s'assurer que ça va ou pas avec sa vision des choses?
Alors, oui et non. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire, dans la solution actuelle, il peut voir ce qui va se passer en temps réel. C'est-à-dire, il a fait son emprunt et quelqu'un a emprunté, il va toucher un rendement et la personne va faire quelque chose. En fait, les comportements que je suis en train d'écrire, c'est des comportements qui existent déjà. On a décidé de les mettre on-chain, donc sur la blockchain, pour qu'ils arrivent de manière tout à fait transparente. Là où il y avait des gens qui achetaient du droit de vote avant de manière totalement cachée, aujourd'hui, ça arrivera on-chain et avant les votes. Donc, en fait, on sera conscient que ça arrive. Donc, on peut regarder en live ce que la personne est en train de faire. Est-ce qu'on peut vraiment l'arrêter? Entre guillemets, on ne peut pas arrêter le prêt, sinon ça ne serait absolument pas intéressant pour les gens d'emprunter aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est qu'on peut retirer une partie de ses droits de vote de la poule et ça va faire augmenter les intérêts que doit payer la personne. Et donc, ça va réduire la durée de son prêt. Ça fait partie des théories du jeu qu'on a un peu cachées dans le protocole. Il y en a d'autres que je vous laisserai découvrir. Mais ce qui est pertinent, en fait, c'est qu'au-delà de juste ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier et mettre à jour les différentes pools et les différents taux d'intérêt. Aujourd'hui, on a créé des taux d'intérêt qui sont curvés pour faire en sorte qu'on puisse faire payer, en gros, suffisamment cher aux gens quand ils essaient d'acheter littéralement un vote. On a mis en place des intérêts qui permettent de limiter les attaques en gouvernance au sens où extraire de la valeur de la gouvernance. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'acheter purement un droit de vote via Paladin sera tellement cher que ça restreindra en fait les gains qu'on peut en tirer. L'idée, c'est que plus on achète un droit de vote en conséquence, plus ça coûte cher. Donc pourquoi est-ce que c'est pertinent? C'est qu'en fait, nous, on a designé la solution pour que ça permette aux gens d'avoir une plateforme supplémentaire. Par exemple, si vous manquez du soutien pour créer une proposition, vous pouvez emprunter sur Paladin. Si vous sentez que ça va être un petit peu juste pendant votre vote, vous pouvez emprunter sur Paladin. Par contre, si vous voulez acheter le vote de A à Z, ce ne sera pas une bonne idée d'emprunter sur Paladin parce que ça va coûter des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Et ça sera extrêmement lucratif pour les gens qui prêtent sur Paladin. C'est les personnes qui ont déposé leur fonds. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'en fait, on aimerait mettre en place des pools qui sont en fait modifiables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces pools, les personnes qui déposent dedans pourront, via la gouvernance, être capables de choisir les règles qui vont les régir. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une whitelist? Est-ce qu'on peut prêter qu'à une certaine liste de personnes? Ou on peut prêter qu'un certain montant? Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui en développement. Ça met un petit peu plus de temps et elles ne sont pas pertinentes tant que les pools n'ont pas atteint une certaine taille. Aujourd'hui, toutes nos pools ont entre 2 et 5 millions de dollars. Nous, on estime que pour que le protocole fonctionne vraiment entièrement, elles doivent être à ce qu'on appelle le seuil de proposition. Donc, c'est entre 20 et 50 millions par pool, ce qui est conséquent, bien sûr.
Sur cette thématique de délégation de vote, est-ce que, imaginons, j'ai en tête deux exemples. L'exemple d'Uniswap, il y a quelques mois, quand il y avait la question de l'airdrop rétroactif, et puis que la communauté était majoritairement d'accord, mais qui n'avait pas atteint le nombre nécessaire de votants, et donc elle avait été rejetée. Et dans d'autres registres, où il y a des votes qui sont, prenons un exemple, avait demain fait une proposition de vote, 95% de la communauté vote pour la V3 d'AV, et puis il y a un mec de Goldman Sachs, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ou d'une autre grande banque ou autre, qui arrive et qui n'en veut pas, BNP, Caisse d'Épargne, je ne sais, Barclays, pour en citer d'autres et ne viser personne, finalement se dit, moi j'en veux pas, j'achète un droit de vote chez Paladin et je renverse la tendance. Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est le jeu?
Alors, non, ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on peut acheter un droit de vote pendant le vote, ce qui se passe, c'est que n'importe qui a vraiment les moyens peut dicter le vote. Donc, par exemple, Valentin, tu n'es pas d'accord avec ce vote-là, tu achètes suffisamment pour avoir le vote non. Moi, je suis encore plus riche que toi, j'achète juste un vote de plus et j'inverse encore la tendance. Et donc, en fait, ça va juste être une espèce de jeu de ping-pong entre les riches. Donc, ça tue la gouvernance. Et nous, notre intérêt en tant que paladin, mais même dans l'écosystème plus en général, ce n'est pas de tuer la gouvernance, c'est de la renforcer, c'est de renforcer la participation. Mais en fait, le mécanisme que tu as décrit ne peut arriver qu'avant le vote en lui-même, c'est-à-dire avant que le snapshot, la photo de l'ensemble des personnes qui possèdent du jeton, soit prise. Donc, si tu prédis effectivement en amont que tu n'auras pas la popularité nécessaire et que tu achètes une grosse partie de vote, pourquoi pas? Mais encore une fois, ça va coûter extrêmement cher, des dizaines de millions. L'idée, c'est que tu peux très bien te dire, ça va être un vote serré. Peut-être que je devrais avoir dans ma botte un petit peu plus de votes au cas où ça ne passe pas. Et donc, tu les empruntes en amont.
Aujourd'hui, quels sont les protocoles justement que vous avez déjà de disponibles sur le site et combien de liquidités vous avez dans ces pools-là justement?
Alors, je pourrais sortir en live et de les dire. Aujourd'hui, on a
Carrément.
quatre jetons de trois gouvernances. Donc, on a onboardé Uniswap, Compound et Aave, parce qu'on estime que ce sont les trois gouvernances les plus actives aujourd'hui et celles où il y a le plus d'intérêt à participer en gouvernance. On a un total de un tout petit peu plus de 11 millions de TVL et on a 5 millions de TVL sur Uniswap, 3,3 millions sur Compound et sur Aave, en fait, c'est divisé en deux pools. Il y a la pool Aave et la pool Stake Aave. Alors au début, on était un peu triste parce qu'on a remarqué que la pool Aave était plus grande que la Stake Aave. Et pour nous, la pool Stake Aave, c'est notre vaisseau amiral. Aujourd'hui, au sens, c'est la plus pertinente parce que ça auto-compound en fait toutes les rewards. Donc en fait, tu as ton farm de paladin et après ton farm de Aave qui coûte cher à claim souvent parce que ça farm pas assez. Et ben nous, il auto-claim via paladin. Et donc, en fait, tu n'as pas besoin de claim toi-même, ce qui est extrêmement pratique. Et en total, elle a 2,6 millions, les deux pools combinées, elles ont 2,6 millions de dollars. Donc, en fait, il y a 10 000 jetons AV, 10 000 jetons comp et 200 000 jetons unis aujourd'hui à disposition pour être prêtés.
Et est-ce qu'il y a eu justement déjà eu cette action d'effectuer? Parce que là, vous êtes live depuis cette semaine, en fait, c'est très récent, et puis on parlera tout à l'heure de l'airdrop. Est-ce qu'il y a déjà eu un cas d'utilisation d'emprunt de vote, ou pour l'instant, il n'y a eu que des dépôts?
Alors, non, il n'y a pas eu que des dépôts. Il y a eu 17 emprunts jusqu'à maintenant. Ce ne sont pas des chiffres énormes non plus. Le protocole, après, il est relativement récent, comme on l'a dit. Il a pas une semaine, il a presque un mois aujourd'hui. Mais en fait, et on est conscient que c'est toute la complexité aussi du projet, c'est qu'en fait, le prêt de droit de vote tel quel, il n'est pas encore dans les mœurs des gens. Donc en fait, il y a tout un travail d'éducation pour qu'on arrive à vraiment attirer des grands noms. Donc en fait, aujourd'hui, on a eu des petits prêts de gens qui voulaient tester la solution, de gens qui voulaient voir si ça fonctionne effectivement. Ça nous a permis d'avoir des rendements entre 1 et 7% en fait sur ces actifs-là la plupart du temps. Aujourd'hui, on va être capable d'accélérer un petit peu la croissance via ce que beaucoup de gens font, et c'est une des raisons pour lesquelles on sortit un jeton, via une campagne de liquidity mining où en fait, on va récompenser les gens qui vont emprunter. Donc en fait, notre idée, ça va être de subventionner en partie les gens qui vont aujourd'hui emprunter sur Paladin, parce qu'on pense que c'est la manière de montrer l'intérêt de la solution. Et en fait, à partir du moment où il y aura un ou deux emprunts, je pense que le marché aura compris la puissance de ces emprunts-là. Et à noter qu'en fait, le protocole n'a pas besoin de tant d'emprunts pour finalement en fait tourner avec un rendement très intéressant, parce qu'en fait, ça coûte entre guillemets cher de prendre un emprunt de gouvernance et c'est fait pour.
Et quand il y a des emprunts de gouvernance, c'est combien de temps ça dure? Parce que tu disais effectivement, si on retire, ça augmente rapidement. C'est de l'ordre de quelques minutes en attendant le snapshot, avant le snapshot, c'est avant, c'est combien de temps?
Alors, effectivement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant de gens qui empruntent ou même qui participent en gouvernance, parce que c'est hautement technique, et il y a des paramètres à comprendre. On ne peut pas emprunter quelques minutes ou quelques secondes, ça ne fonctionnera pas pour la plupart des gouvernances. On ne peut pas non plus faire de flash attack via la gouvernance. Ça avait été essayé il y a quelques années, il y a un an pile sur Maker, et ça avait marché, ils ont changé aujourd'hui leur système. En fait, la plupart des gouvernances, quand on crée une proposition, elles demandent à ce qu'on conserve le proposal power, donc le nombre de jetons suffisant pour créer la proposition, dans le wallet pendant toute la durée de la proposition et toute la durée du vote. Donc ça peut être de 7 jours à 2 semaines. Donc ça veut dire que si à un moment vous passez en dessous de ce seuil-là, par exemple si quelqu'un vous a délégué qui retire sa délégation, n'importe qui peut annuler le vote en cours. C'est arrivé sur Uniswap durant le vote numéro 7. C'est justement le vote a été annulé. Parce qu'en fait, un de leurs délégués avait retiré le vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas, comme on l'a dit, comme tu l'as dit de manière très pertinente, en fait, juste avant un vote, il y a un snapshot qui est pris. C'est une photo de l'ensemble des gens qui possèdent les jetons de gouvernance sur la blockchain. Et ils peuvent chacun voter en fonction. Et donc après, tous les échanges qui sont faits ne comptent pas, incluant les emprunts paladins, bien sûr. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vend nos jetons, et bien parfois on peut aussi perdre son droit de vote. Donc en fait, ce qui est conseillé, ce n'est pas juste d'emprunter pour le snapshot, mais d'emprunter en fait sur toute la durée de la semaine. Sinon, le vote ne sera pas forcément valable. Donc en général, on s'attend, ça va dépendre de la raison de l'emprunt, à des votes entre 1 semaine et 3 semaines. Et peut-être un peu plus long pour les gens qui souhaitent construire des positions défensives dans leur gouvernance. Je vais vous montrer un exemple. On l'a dit tout à l'heure, même Stani et Marc aujourd'hui ne contrôlent plus AV. Si à un moment ils sont conscients qu'ils sont sur un sujet qui est un petit peu sensible, où ils n'ont pas forcément la plus grosse popularité et qu'ils ont besoin en fait d'être sûrs d'éviter une attaque de gouvernance ou un vote qui ne leur permettrait pas de construire leur plan, ils peuvent prendre un emprunt pendant une durée de 1 mois ou 2 mois, juste le temps en fait de résorber la situation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment en fait de permettre aux gens d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans la manière dont ils interagissent avec la gouvernance.
Et on va discuter maintenant du token Paladin que vous avez lancé, voir un petit peu les critères d'éligibilité peut-être. Il y a des gens qui nous écoutent, qui sont éligibles à l'airdrop. On en parlait tout à l'heure des protocoles de gouvernance qui, pour faire un peu de pub et puis pour lancer la DAO, il faut bien qu'il y en ait qui aient le token justement, donnent leur token de gouvernance à la communauté. Quels sont les critères pour avoir ce token PAL, et justement on parlait de composabilité, d'interopérabilité. Est-ce qu'on peut se dire peut-être un jour on pourra emprunter du PAL sur Paladin pour pouvoir imaginer je ne sais quelle structure pour fermer le site Paladin si en fait on n'est pas content qu'elle ait été utilisée pour quelque chose ou quelque chose du style?
Alors, c'est notre espoir. Notre espoir, c'est que Paladin devienne un jeton des activistes, littéralement, et le protocole est dédié aux gens qui participent en gouvernance et qui veulent faire améliorer ce secteur-là. Donc, en fait, on a décidé de distribuer 1 million de jetons Paladin à l'ensemble des gens qui ont voté sur la gouvernance d'AV, de Curve, de Compound et d'Uniswap. Donc, c'est une grosse distribution, ça concerne plus de 5 000 personnes. Une des raisons pour lesquelles on est aujourd'hui sur le podcast, c'est qu'on espère que des gens qui ne sont pas au courant et qui n'ont pas vu nos posts sur Twitter peuvent les claim. Donc, on a distribué 1 million de jetons de gouvernance aux ensembles des personnes qui ont voté sur AV, sur Compound, sur Curve et sur Uniswap. Si vous avez voté on-chain, attention, pas sur Snapshot, vous êtes éligible à cet airdrop et on vous attend sur notre site pour claim. On espère que vous allez nous rejoindre. Au-delà de ça, aujourd'hui, l'écosystème Paladin, c'est un maximum de 50 millions de jetons. Et en fait, l'essentiel de la cap va être consacré à distribuer aux gens qui vont participer dans les gouvernances et qui veulent améliorer en fait, le secteur. Donc aujourd'hui, on a créé Paladin comme une force entre guillemets financière, un petit peu, j'aimerais dire presque, parce que dans l'écosystème, c'est presque un gros mot de banque, qui va en fait financer et il veut devenir le carburant de la gouvernance. Nous, on pense que c'est, en tout cas, c'est l'enjeu qu'on a choisi sur lequel on a choisi de se dédier, et on aimerait permettre de financer et de développer cet écosystème-là. On pense que ça va énormément évoluer sur les 10 prochains mois, et on aimerait contribuer en fait à son évolution. On aimerait contribuer à la liquidité de la gouvernance, c'est-à-dire à permettre à des gens à des nouveaux entrants de participer et permettre en fait à plus de gens de comprendre l'importance de ce secteur-là.
Et de effectivement prendre la parole, faire des propositions, parce que là on a parlé des gens qui qui votent des propositions des autres participants. Peut-être qu'il faut aussi imaginer à travers parce que même les forums de gouvernance, avant même de parler des votes, après sont peu consultés et utilisés par les gens qui pourtant déposent de la liquidité, et Dieu sait que c'est le nerf de la guerre, et de continuer dans cette démocratisation et explication à travers Paladin sur cette thématique de vote, et en attendant de pouvoir déléguer ces votes pour toucher un rendement supplémentaire à travers ces tokens.
Bien sûr, aujourd'hui, on est la seule plateforme qui propose un rendement à ce niveau-là. Je précise, parce que c'est très pertinent ce que tu as dit, les gens qui créent des propositions, ils ont un multiplicateur de facteur 3 sur leur airdrop. C'est les gens qu'on a tenus à le plus remercier et récompenser dans l'écosystème, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, au-delà même du taux de participation qui est très bas, il y a encore moins de personnes qui participent sur les forums et encore moins qui créent des propositions en gouvernance. Alors que c'est finalement pas si compliqué de le faire. Donc, il y a plein de barrières qu'il faut arriver à briser. Je pense qu'il y a un mythe, il faut arriver à motiver les gens de le faire. N'importe lequel d'entre vous qui nous écoute, même si vous n'avez pas de jetons, vous pouvez créer une proposition. Le plus compliqué, ça va être de se faire entendre et de trouver les bons alliés. Et la réalité, c'est qu'en fait, ce sont des compétences de finance traditionnelles, cela. C'est du réseautage, c'est être capable de faire passer des actions en gouvernance. Et c'est ce que des banquiers d'affaires et des fonds d'investissement savent faire. Donc, en fait, une des parties qui est un petit peu effrayante dans cet écosystème-là, c'est qu'on est en train de se rendre compte qu'on est dans ces systèmes qui en ce moment fonctionnent très bien. Il y a des gens qui roulent littéralement sur l'or avec des trésoreries qui sont très complètes. Et à côté, on a un écosystème qui est spécialisé, celui de la finance traditionnelle, de gérer et d'extraire de la valeur de ce genre de système-là. Et ils ne sont pas encore conscients à quel point la finance décentralisée fonctionne. Il faut faire très attention parce que ça va venir très vite. Jusqu'à il y a très peu de temps, les financiers de la finance traditionnelle, ils étaient très heureux de se contenter d'un index, d'un ETF sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est l'arbre qui cache la forêt en réalité dans la finance décentralisée. Il y a beaucoup de choses en développement par-dessus qui sont autrement plus lucratives et autrement qui ont un potentiel de développement extrêmement important encore aujourd'hui. Et donc, le danger, c'est que demain, un Goldman Sachs ou autre très grosse banque d'investissement débarque et en fait, explose la gouvernance littéralement et prenne le contrôle d'une partie de la trésorerie. Donc, il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas prêts à lutter contre les acteurs de la finance traditionnelle sur un terrain que l'on pense être le nôtre, mais qui en fait, auquel on n'a pas encore les compétences et l'organisation nécessaires.
Excellent. Merci beaucoup, Romain, pour toutes ces explications. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous comprenez maintenant l'importance de ces tokens de gouvernance, pourquoi certaines whales, certaines personnes sont capables d'acheter les tokens issus de airdrop à certains prix et qu'on a vu justement des airdrops s'acheter à 10, 15, 20, 30, 40 000 dollars ces dernières semaines sur certains protocoles pour justement avoir une place importante dans la direction des DAO et des propositions qui y sont faites. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous poser toutes vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.